RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Info week-end à 7h avec Lionel Sabot.
L'UCO en congrès depuis hier à Marais. Dans son discours d'ouverture, Emmanuel Chibaou a indiqué que son parti était opposé à l'accord de Bougival et à celui de l'Élysée Oudinot. 2 ans de prison ferme pour l'un des incendiaires de l'école Jacques Minguet à Dimbéa. Il s'agit du seul prévenu majeur dans cette affaire. Un coup de filet à la DGSI. 3 jeunes Toulousains ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu rejoindre les talibans en Afghanistan. 2 nouvelles motions de censure débattues hier soir à l'Assemblée nationale. Motion de censure déposée par le Rassemblement national et LFI après l'utilisation du 49-3 par le Premier ministre. Le sport, le football, Auxerre et le Paris Saint-Germain qui ouvrent le bal de la 19e journée de Ligue 1. C'est un duel des extrêmes entre des Auxerrois qui sont 17e du général et le Paris Saint-Germain qui est 2e. Et puis, ce n'est pas vraiment une surprise, mais il n'y a plus de Français en lice à l'Open d'Australie dans les tableaux en simple. Hier, Corentin Moutet s'est logiquement incliné face au numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Bonjour, excellent week-end, soyez les bienvenus dans ce journal. Les militants de l'UC sont au travail depuis hier. L'Union calédonienne réunit en effet son 56e congrès tout ce week-end à la tribu de Penelo. Congrès qui sera marqué par le renouvellement dimanche matin des instances du parti et de son président. Ce congrès va bien sûr faire une large part à la situation politique. Et dans son discours d'ouverture hier, le président de l'Union calédonienne, le député Emmanuel Chibaou, a donné le ton, Michael Gineski.
Allez jusqu'au bout du travail de décolonisation pour accéder à la pleine souveraineté, c'est toujours l'objectif du combat politique du FLNKS, a rappelé Emmanuel Chibaou au début de son intervention, et il affirme que le combat continue.
Nous sommes mobilisés sur tous les fronts, au niveau local, national et international, pour faire valoir notre idéal de justice.
Une mobilisation qui ne doit pas faiblir et la principale cible du président de l'UC, c'est l'État, responsable selon lui de la situation actuelle. Le FLNKS n'y est pour rien.
L'heure est grave. La réunion convoquée par le président de la République du 16 janvier dernier à l'Élysée n'a fait que confirmer les craintes. L'État a décidé de passer en force à la voie du dialogue. Il préfère aujourd'hui celle d'une recolonisation de notre pays qui ne dit pas son nom. Car vous le savez, nous le savons tous, l'accord de Bougival n'a d'accord que le nom. Il n'en est rien d'autre en vérité qu'un projet pour réancrer de manière pérenne la Kanaky dans le giron de la République française.
L'heure est grave et l'heure est à la lutte, et là encore, c'est l'État qui est visé.
L'heure est à la lutte. Lutter contre l'État pour lui rappeler sa responsabilité qu'il a dans le déroulement des événements de ces dernières années. Car ce n'est ni l'UC ni le FLNKS qui ont pensé qu'on pouvait valider une consultation référendaire pour l'indépendance sans la participation du peuple colonisé. C'est ni l'UC ni le FLNKS qui ont imaginé qu'on puisse dégeler le corps électoral sans qu'il y ait un accord négocié, consensuel avec la totalité des représentants politiques du peuple kanak. Ce n'est ni l'UC ni le FLNKS qui ont fait le forcing pour entériner ce projet fou au Sénat et à l'Assemblée nationale.
L'heure est au combat, a poursuivi Emmanuel Chibaou, au combat pour convaincre les parlementaires de ne pas voter les textes qui leur seront proposés, mais aussi au combat pour convaincre les autres partenaires politiques calédoniens favorables à l'accord Élysée-Oudinot auquel il s'est adressé.
Pensez-vous réellement construire un avenir durable et harmonieux dans ce pays contre l'opinion de la très grande majorité du peuple kanak? Pensez-vous réellement faire société en jetant les bases d'une partition de fait de notre pays?
Car selon Emmanuel Chibaou, l'accord de l'Élysée-Oudinot franchit des lignes que son parti n'accepte pas.
Nous ne pouvons accepter une ouverture du corps électoral qui a pour seul but de continuer à noyer le vote du peuple kanak et à retarder le moment de sa pleine émancipation. Nous ne pouvons accepter une redistribution des sièges électifs entre les provinces qui viendrait rompre l'équilibre de la représentation politique entre le sud, le nord et les îles. Nous ne pouvons pas accepter l'annonce d'une partition de fait du pays par une hyperprovincialisation qui transférera aux provinces toute une série de compétences revenant jusqu'à présent au gouvernement et fera perdre à celui-ci son rôle fédérateur.
L'Union calédonienne, par la voix de son président sortant, confirme donc la position du FLNKS et rejette l'accord de Bougival complété par l'accord Élysée-Oudinot. Emmanuel Tchibaou a donc appelé les militants à poursuivre la mobilisation, mais il a aussi adressé un message à l'ensemble des indépendantistes, un message qu'il a aussi présenté comme un combat.
Nous avons un dernier combat à mener, et c'est peut-être le plus difficile. C'est le combat contre nous-mêmes. Sommes-nous capables, à l'heure qu'il est, confrontés à l'adversité, à l'urgence, de nous rassembler, de mettre fin à nos divisions? Sommes-nous capables de reconnaître nos manquements, nos défaillances, nos fragilités? Sommes-nous capables de reconnaître la part qu'elles ont dans la situation que nous traversons aujourd'hui? Sommes-nous capables de nous mobiliser, non pas seulement pour répéter encore et encore, de manière incantatoire, indépendance, indépendance, mais pour construire collectivement un véritable projet de société?
Ce discours a donc marqué l'ouverture du congrès de l'Union calédonienne qui se poursuit aujourd'hui par un travail en atelier dans lequel il sera aussi question de la préparation des élections municipales. Le renouvellement des instances de l'UC et de son président se fera en fin de congrès dimanche.
Actualité judiciaire, 200 de prison ferme pour l'un des incendiaires de l'école Jack Manguay à Dambéa. Il s'agit du seul prévenu majeur dans cette affaire. Je rappelle que 3 individus avaient mis le feu à 2 salles de classe tôt lundi dernier. La police municipale avait rapidement interpellé les auteurs des faits. Les 2 autres individus impliqués sont des mineurs de 14 et 16 ans. Ils sont placés sous contrôle judiciaire en attendant d'être présentés au tribunal pour enfants. Et puis la préparation des élections municipales à la fois avec une première candidature officielle. Steven Skaula annonce qu'il va conduire la liste d'ouverture Osons la foi. Elle sera présentée officiellement mardi prochain. Steven Skaula, originaire de la tribu de Watom, est déjà conseiller municipal Calédonie Ensemble, liste sur laquelle il a été élu en 2020.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 50% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils s'intéressent déjà à la donne politique de leur commune pour les élections municipales de mars prochain. Ils sont donc aussi 50% à dire que ce n'est pas le cas. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Actualité festive encore restreinte ce week-end. Les animations proposées par les communes pendant les vacances scolaires se poursuivent. À Nouméa, la Maison de la Biodiversité à Sainte-Marie organise chaque samedi des animations gratuites de 10h30 à midi et de 14h30 à 17h. À Dambéa, aujourd'hui, les jeunes curieux pourront découvrir le monde du cirque au Big Up Spot de Coutiot de 15h à 17h. Une animation proposée dans le cadre d'un été culturel à Dambéa. À la médiathèque de Dambéa, les animaux seront à l'honneur avec la Spank qui animera un atelier. J'adapte responsable, ce sera de 13h à 15h. Toujours aujourd'hui, de 9h à 16h, le centre équestre L'Étrier à Nouméa proposera sa journée portes ouvertes au programme Balade à Poney, visite des écuries et lâcher de poney à 16h. Les précisions d'Antoine Schneider, c'est le président de l'association de L'Étrier à Nouméa.
Nous allons proposer, principalement l'activité tournera autour du centre équestre. Par contre, il y aura beaucoup de bénévoles afin de vous expliquer le monde du cheval, si vous vous intéressez, de répondre à vos différentes questions pour pouvoir par la suite vous donner envie d'être là et de revenir au centre équestre. L'objectif de cette porte ouverte, c'est avant tout de créer l'envie chez les jeunes enfants de commencer une activité et de connaître l'animal, du cheval en l'occurrence, connaître l'animal afin qu'on n'ait plus l'appréhension et qu'on le traite correctement pour pouvoir par la suite évoluer avec derrière si les gens accrochent à cette activité.
Un événement gratuit ouvert à tous, une soirée avec repas sur réservation est également proposée. Animation à Bouloupari où le Cambrin ouvre ses portes le temps d'une visite guidée. Ce sera à demain de 9h à 11h30. La réservation se fait uniquement par téléphone au 44 32 71, le 44 32 71. À côté à marché, le Mont d'Or proposera demain son drive-in du Pont des Français de 5h à midi. À Dambéa, un vide-grenier sera aussi organisé au parc Fayard. C'est de 6h à midi. Il est 7h10. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite du journal et l'actualité en métropole avec ce coup de filet de la DGSI. Trois jeunes Toulousains ont été interpellés par les services de la sécurité intérieure. Trois jeunes qui sont actuellement en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu rejoindre les talibans en Afghanistan. William Molinier pour Europe 1.
L'enquête commence tout juste. Les policiers tentent de savoir quel était précisément leur projet. Selon les informations d'Europe 1, une enquête préliminaire a été ouverte mardi pour participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes. Tout s'est accéléré lorsque les enquêteurs ont eu la conviction que ces trois individus avaient l'intention de se rendre en Afghanistan pour rentrer en contact avec un groupe lié aux talibans. Ils auraient déjà réservé leur séjour sur place. Reste à savoir qui sont leurs contacts. Que comptaient-ils faire là-bas et surtout dans quel but? Depuis plusieurs mois maintenant, des influenceurs francophones multiplient les vidéos qui vantent la nouvelle vie afghane sous le régime des talibans. Des clips qui font découvrir la gastronomie locale et qui mettent systématiquement en avant la pratique religieuse rigoriste. Ces vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux et cumulent pour certaines des centaines de milliers de vues. D'après les premiers éléments, ces trois trentenaires gravitent autour de la même sphère familiale. Leur garde à vue peut durer jusqu'à lundi matin.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. La politique et de nouvelles motions de censure débattues hier soir pour nous à l'Assemblée nationale. Motion de censure déposée par le Rassemblement national et par LFI après l'utilisation du 49-3 par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour faire adopter la partie recette du budget. Deux motions de censure qui ont été rejetées. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Sébastien Lecornu doit sa survie au soutien des socialistes et des républicains. Pourtant, le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, avait alerté ses collègues sur la dangerosité de ce budget.
C'est un budget d'incapables, de lâches et de nullité. C'est pas un budget de gauche ou de droite. C'est un budget de politicards qui pensent que pour acheter leur siège, pour pas aller aux élections, faut faire douiller les Français et faut faire des chèques à la bidon.
Jean-Luc Mélenchon est également fou de rage contre les députés socialistes qui l'accusent de trahison. Souvenez-vous de ce vote lors des municipales, lance le leader insoumis. De son côté, le Parti socialiste assume sa position et le député Laurent Baumel se justifie.
Le résultat des prochains votes de censure sera rigoureusement le même que le premier. Les députés ne sont pas des girouettes qui changent d'avis d'une minute à l'autre. Les raisons pour lesquelles nous avons fait le choix de ne pas censurer sont profondes, elles sont structurelles et vous n'aurez pas 10, 15, 20, 30 députés qui vont changer d'avis.
Sauvé, Sébastien Lecornu peut enfin respirer et rappelle qu'il a été obligé d'utiliser le 49-3 car les députés n'ont pas réussi à se mettre d'accord.
Le Parlement, collectivement, n'est pas parvenu à aller jusqu'au bout, hélas, de sa propre responsabilité.
Maintenant, Sébastien Lecornu doit échapper à deux nouvelles motions de censure pour une adoption finale du budget à la mi-février.
Dans l'actualité politique encore, quand Jean-Luc Mélenchon reprend à son compte un concept qu'il a toujours honni à l'occasion d'un meeting pour les élections municipales, le leader de la France insoumise a appelé à faire du grand remplacement un projet politique. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Jean-Luc Mélenchon ne combat plus l'idée de grand remplacement, il la retourne. Pour lui, ce n'est ni une peur ni une menace, mais un horizon politique, le moteur d'une nouvelle France qu'il veut refonder par le métissage, la créolisation et la bascule démographique.
Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement. celle de la génération qui remplace l'autre, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps, et que c'est pas parce qu'il y a 10 dingues dans un coin qui tout d'un coup ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leur peur.
La cible est claire, les campagnes, les territoires qu'ils jugent figés, conservateurs, dépassés. Il veut y projeter les banlieues, importer leur sociologie, leur électorat, leur culture politique. Ce discours rompt avec l'universalisme républicain qu'il défendait autrefois. Derrière une stratégie, maximiser le vote communautaire pour accéder au second tour en 2027.
Venons en l'actualité à l'étranger avec, dans l'actualité de ce samedi matin, le choc pour les victimes et proches des victimes de l'incendie qui s'était produit à Crans-Montana le soir du Nouvel An, faisant 40 morts et 116 blessés. Jacques Moretti, le gérant du bar Le Constellation, mis en cause dans l'enquête ouverte après la tragédie, a été libéré par la justice. Décision de la justice helvète qui choque maître Jean-Luc Adore, c'est l'avocat de la famille d'un jeune décédé dans l'incendie.
C'est un scandale et puis c'est aussi une honte à l'égard des victimes et de leurs familles. Depuis le départ, le ministère public et ensuite le tribunal des mesures de contrainte lui-même s'est obstiné à refuser de reconnaître, en plus du risque de fuite, un risque de collusion qui est évident pour tout le monde, sans compter que le montant de la caution, pour moi, il est dérisoire. Je pense que ça va être extrêmement difficile à expliquer aux victimes survivantes, aux familles des victimes.
Maître Jean-Luc Adore, des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Et puis à l'étranger toujours, la Russie, l'Ukraine et les États-Unis réunis à Abu Dhabi. Ils doivent évoquer la question clé des territoires de l'Est de l'Ukraine. Sur Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, le Kremlin exige que les troupes ukrainiennes se retirent pour trouver une issue à la guerre. C'est pour parler entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis doivent se poursuivre pendant 2 jours. Il est 7h17. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive et la météo.
Et Tantine, on est en janvier, tu peux enfin refaire tes lunettes. Chez Optique Bellevie, ils testent ta vue gratuitement et sans rendez-vous. Et en plus, t'auras tes progressives en 3 jours max.
Allez, direction Bellevie.
Optique Bellevie, toutes vos lunettes en 3 jours.
Savez-vous que la lèpre touche encore une personne toutes les 2 minutes? Aujourd'hui, ce fléau mutile, handicape et exclut 3 millions de lépreux dans le monde. Engagé contre la maladie, l'Ordre de Malte dépiste, soigne et fait avancer la recherche.
À l'occasion de la Journée mondiale des lépreux, l'Ordre de Malte organise une quête samedi et dimanche 24 et 25 janvier. Soyez généreux!
Jusqu'au 6 février, gagnez un séjour enchanteur à l'hôtel Coulnoué Village. Logez 5 nuits en bungalow premium avec vue mer, petit déjeuner et buffet du soir pour 2 personnes. Profitez de la mer, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez chance au 40-20. L'hôtel Coulnoué Village vous accueille toute l'année dans un cadre idyllique en face de la poule de Yengen. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 6 février à 14h, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite du journal avec l'actualité sportive. On va commencer, Mickaël Juneski, avec du football et le début de la 19e journée du championnat de France de Ligue 1. On a d'abord droit à un choc des extrêmes ce matin. Le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse d'Auxerre.
Exactement, la JOCR qui est actuellement 17e du classement. Le Paris Saint-Germain 2e. Les Parisiens qui doivent s'imposer pour reprendre provisoirement la place de leader et surtout mettre la pression sur Lens qui affrontera demain matin l'Olympique de Marseille. Alors on joue depuis une heure déjà et le score est toujours de 0 à 0 entre les deux formations. Les Auxerrois mettent évidemment toute leur force dans la bataille pour essayer de conserver un résultat positif face à Paris et le PSG qui peine à trouver la faille. Paris qui veut bien entendu tenter de retrouver ce week-end la tête du championnat de France à condition déjà de partir d'Auxerre avec une victoire aujourd'hui. Encore une trentaine de minutes à jouer ce matin. Il restera à suivre également demain matin le derby breton Rennes-Lorient ou encore le déplacement de Monaco sur la pelouse du Havre.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Le rugby, donc, après la Champions Cup, le championnat de France de top 14 reprend ses droits avec la 15e journée qui débute ce soir.
Ça commencera par un choc entre l'Union Bordeaux-Bègles, 4e du classement, et le Stade Français, 3e. Coup d'envoi à 00h30. Ensuite, à 2h35 du matin pour nous, en simultané, Bayonne qui fera face à Castres, le Racing 92 qui sera opposé à Lyon, Toulon qui recevra Montpellier et Perpignan qui affrontera un Montauban dans le duel du bas de tableau. Et puis à 7h, ce sont cette fois les deux premiers du championnat de France qui croiseront le fer, le Stade Toulousain qui accueillera la section paloise. Lundi matin, l'AS Clermont fera face à La Rochelle.
Et sur les terrains de handball, l'équipe de France jouera la nuit prochaine son deuxième match du tour principal de l'Euro face au Portugal. Les Français qui vont devoir se rattraper après la défaite contre le Danemark 32-29 hier. Match à suivre à partir d'1h30 du matin. Les sports d'hiver à présent, Mickaël, et les Françaises qui s'illustrent à l'occasion de l'étape de Coupe du Monde de biathlon en République tchèque.
Avec un nouveau doublé sur l'individuel court à Nové Mesto, deux jours après les messieurs, cette fois, Justine Brezaz-Boucher s'est imposée sur cette épreuve pour une seule seconde d'avance sur sa compatriote Lou Jeanmonod. Justine Brezaz-Boucher qui conforte son avance en tête du classement général de la Coupe du Monde chez les dames pour se rapprocher du gros globe et surtout à moins d'un mois du début des sports d'hiver.
On passe
des JO de sports d'hiver, pardon.
Des JO d'hiver, effectivement. Les sports mécaniques avec le rallye de Monte Carlo.
Et à l'issue des 9 premières spéciales du week-end, Olivier Solberg sur Toyota est toujours leader du classement. Il possède plus d'une minute d'avance sur son coéquipier gallois Elfyn Evans. Sébastien Ogier, également sur Toyota, avec sa couronne retrouvée de champion du monde de la discipline, est actuellement 3e de cette épreuve. Il reste encore 8 spéciales au menu tout au long du week-end.
Le sport dans le Pacifique à présent avec du tennis, c'est le 3e tour de l'Open d'Australie.
Et il n'y a désormais plus de Français en lice dans les tableaux en simple. Corentin Moutet n'a, sans surprise, pas fait le poids hier contre le numéro 1 mondial sur la Rod Laver Arena. Défaite face à l'Espagnol Carlos Alcaraz. 6-2, 6-4, 6-1. Il n'y avait tout simplement rien à faire, selon Corentin Moutet.
C'était dur. Il a été meilleur que moi. Même si moi, je suis arrivé sur le match avec comme belle intention, en essayant de me concentrer sur moi, d'être agressif, de jouer le match contre moi plutôt que contre l'adversaire. C'est une première pour moi sur central en Australie, première contre Carlos. Je suis allé avec mes armes, je suis allé avec le cœur et puis j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et c'était pas suffisant.
Corentin Moutet qui était donc le dernier tricolore en lice, en simple, on le reprécise, hein, sur les 22 engagés au début du tournoi. A signaler tout de même que le monégasque, souvenez-vous, Valentin Vacherot, est lui encore de la partie. Il sera opposé cet après-midi à l'américain Ben Shelton. Du côté des têtes de série, Alexander Zverev est passé hier face au britannique Cameron Norrie en 4-7. Aujourd'hui, on retrouvera notamment l'italien Yannick Sinner contre l'américain Elliot Spitzeri. Et ce soir, Novak Djokovic opposé au néerlandais Van der Zandschulp. Chez les dames, Coco Gauff, l'américaine tête de série numéro 3, a triomphé de sa compatriote Hayley Baptiste en 3-7. Arina Sabalenka l'a aussi emporté contre l'autrichienne Anastasia Potapova. Ce soir, la polonaise Iga Swiatek sera opposée à la russe Anna Kalisinskaya.
Et toujours en Australie, Mickaël, et pour finir, du cyclisme avec la suite du Tour Down Under.
Et ce vendredi, sur la troisième étape, la victoire est revenue à un Australien, Sam Welford de l'équipe Ineos. Il a devancé au sprint le Danois Tobias Lund Andresen de la formation Decathlon et le néo-zélandais Lewis Bower de l'équipe Groupama FDJ lors d'une arrivée massive. Le classement général est toujours emmené par Jay Vine, l'Australien, retardé par une chute hier dans le final, mais qui a été classé dans le même temps que le vainqueur. Il devance toujours au général l'équatorien Jonathan Narvaez de 6 secondes et le Suisse Mauro Schmidt d'une minute et 5 secondes avant la quatrième étape. Elle aurait dû voir le peloton se lancer notamment sur 3 ascensions aujourd'hui du fameux Willung Hill, celui qu'on appelle généralement le traditionnel juge de paix du Tour Down Under. Mais le parcours du jour a été modifié en raison des fortes chaleurs et même des risques d'incendie dans cette région sud de l'île continent. Un tout dernier mot de sport dans la région du football. On signalera que l'équipe du Tahiti United avec ses 3 Calédoniens jouera aujourd'hui une nouvelle rencontre de l'OFC Pro League en Nouvelle-Zélande. Germain Ewegene, Potin Poma et Joseph Attalé, ils étaient tous 3 titulaires pour défier les Australiens du South Melbourne le week-end de dernier. Ils affronteront aujourd'hui les Solomon Kings à partir de 12h30.
C'est bon, fini ?
Il n'y a plus.
Eh ben la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière. Et ce matin, le temps est très agréable avec un soleil bien présent. Et quelques nuages sont observés sur l'extrême sud, le nord-ouest et les Loyautés. Le vent est toujours de secteur sud de 10 à 15 nœuds, localement autour de 15 nœuds aux pointes nord et sud. La côte est reste soumise à un régime de brise côtière. Cet après-midi, sur l'extrême sud et l'île des Pins, le ciel se chargera et quelques faibles ondées seront attendues. Ailleurs, il fera beau avec quelques nuages sur la chaîne et d'autres un peu plus présents sur l'extrême nord. Le vent de secteur sud sera généralement compris entre 10 et 15 nœuds avec une légère accélération sur le nord-ouest. Autour de 15 nœuds, l'est sera déventé. Le mercure sera à la baisse et les températures se rapprocheront des moyennes de saison. Bonne nouvelle Lionel Sabot, n'est-ce pas ?
Eh bien oui, c'est une excellente nouvelle. Il est 7h25, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Il sera disponible d'ici quelques instants sur notre site internet, le www.rrb.nc. On se retrouve à 8h pour d'autres infos. Belle matinée, bon week-end.
Merci beaucoup.